La Paul, ce matin, pour nous enseigner, pour nous diriger. Et merci parce que tu l'as rempli de ta paix. Amen.
Amen. Joie de voir celles et ceux qui nous ont rejoints et joie de revoir celles et ceux qui, depuis vendredi, sont avec nous dans le cadre de ce week-end de rentrée d'église. On va revenir en arrière, Joseph, s'il te plaît. Pour avancer ensemble. Le thème de notre année est inspiré de l'évangile de Jean chapitre 13 verset 35 où le Seigneur dans une parole testamentaire, donc une parole qu'il donne à ses disciples alors qu'il est en train d'aller vers la croix qui est au centre de notre vie, de notre communauté et que nous avons voulu également rendre visible dans notre nouveau logo. Être cette église centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, source jaillissante de la vie, source jaillissante de la joie, source jaillissante de la paix. Toute chose que notre monde ignore mais dont il a tant besoin. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, source jaillissante de l'église famille de Dieu, et source jaillissante de notre fraternité. Oui, notre ambition, notre désir, notre prière, c'est que de plus en plus en nous voyant vivre l'Église dans un contexte monde post-chrétien et avec tant de défiance et de méfiance à l'égard des Églises, qu'il puisse dire que puisse réaliser cette promesse de Jésus dans Jean 13, 35. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est la raison pour laquelle nous voulons vivre l'Église comme une famille en Christ où sa vie, la vie de Jésus, jaillit en abondance. Nous sommes dans un monde fracturé et nous sommes dans un pays qui demain, sans doute, va encore basculer à nouveau dans une instabilité qui ne fait que de s'accroître. Un pays qui nous promet liberté, égalité et fraternité et dont nous voyons combien la fraternité pour choisir simplement le mot, le terme qui est en lien avec notre week-end de rentrée, combien cette fraternité est fracturée. La fracture sociale dont on nous a parlé depuis tant de décennies n'est pas simplement une fracture sociale économique. Ce n'est pas simplement une fracture sociale générationnelle. Nous avons entendu des débats ces derniers temps qui nous alertent sur l'opposition des générations qui vient rendre visible ce malaise et cette difficulté. Cette fracture sociale, générationnelle, environnementale est au fond symptomatique d'une société en manque de repères. Je reçois comme une parole d'encouragement ce que j'ai entendu de la bouche de notre frère André comme parole fraternelle, inspirée de l'amour du Seigneur, pour nous encourager, nous tous, dont je suis en charge d'âme, de pouvoir apporter dans un monde déboussolé, dans un monde fracturé, humblement quelques repères. Et je crois que l'Église, famille en Christ, est une chance pour notre monde. L'Église famille en Christ est une bénédiction pour notre monde. En tout cas, sur le cœur de Dieu, c'est ce qu'il a voulu. Il n'a pas voulu qu'elle soit pointée du doigt comme une Église abusive, comme une Église oppressante, comme une Église excluante, comme une Église stigmatisante. Il a voulu de tout son cœur qu'elle soit au milieu d'un monde déboussolé, un monde qui se désagrège. La famille de Dieu. La société alternative et prophétique que Dieu propose à notre monde. Voici une famille autrement. Et cette famille autrement est en cours de construction. Elle n'est pas non plus une famille parfaite. Elle n'est pas non plus une famille qui aurait la prétention de ne pas avoir des difficultés. Mais elle est une famille que Dieu est en train de sanctifier et que Dieu est en train, en Jésus-Christ, de restaurer. Cette famille église au sens large, c'est celle que nous voulons vivre dans la continuité de tous ceux qui nous ont précédés. Nous voulons vivre, nous aussi, l'Église comme une famille en Christ. Nous vivons dans un monde où peut-être nous n'avons jamais été autant connectés à travers des interfaces, à travers des applications, à travers des réseaux sociaux. Mais alors même que nos pages sur les réseaux sociaux peuvent afficher des chiffres impressionnants et vertigineux de nombre d'amis, des milliers de pouces que nous pouvons lever juste en postant une photo, des milliers d'émojis que nous pouvons présenter juste en disant « quand tout va bien dans ma vie » ou « quand je suis en vacances » ou « quand la Bretagne s'invite à Nîmes » ou « quand il fait chaud ». Et pourtant, nous sommes aussi une société du délitement, une société de la solitude, une société de l'isolement, une société qui ne sait plus faire lien. Et l'Église est une chance dans cette société, parce qu'elle peut être le lieu où des hommes et des femmes qui ne se sont pas choisis, qui ne se connaissaient pas, en tout cas en ce qui me concerne, il y a juste 2 ans et quelques mois, peuvent s'accueillir en Jésus-Christ, peuvent faire route ensemble et peuvent s'appeler frères et sœurs, bien-aimés en Jésus-Christ. L'épître de Jacques est une épître qui a été donnée par un membre de l'église de Jérusalem, Jacques le Majeur, ou Jacques qu'on appelait le frère du Seigneur, qui avait une importance dans cette église de Jérusalem, et qui s'est adressé aux judéo-chrétiens, donc aux chrétiens d'origine juive qui étaient donc dispersés, pour justement les inviter à réaliser combien en Jésus-Christ, aussi lointain que nous soyons, aussi différents les uns des autres, c'est pour une communion qui nous engage dans une fraternité forte que le Christ a fait de nous, des frères et sœurs. C'est de ça que je voudrais nous parler ce matin, de l'Église comme lieu de la communion, comme lieu du pardon et de la guérison. On peut tirer le fil de la fraternité, même si Jacques n'utilise pas toujours cette notion avec toute la connotation doctrinale de l'apôtre Paul, mais il utilise dans nos versions traduites en français courant ou contemporain l'expression « mes frères et mes sœurs, bien-aimés ». J'ai déjà eu par le passé à rappeler que ainsi nous nous appelions en église quand j'étais au Cameroun, bien-aimés dans le Seigneur. Et moi je crois que ce n'est pas vieux. Je crois que ce n'est pas religieux. Je crois que ça nous, pédagogiquement, ça nous amène à travers cette expression bien-aimé Myrto, qui nous rend visite ce matin, que j'ai eu la grâce de visiter avec David. Bienvenue, bien-aimé. Avoir dans les yeux d'un frère, même qu'on ne connaît pas depuis longtemps, une personne aimée de Dieu et aimée de Jésus-Christ malgré nos blessures. La fraternité est un fil que nous pouvons tirer tout au long de l'épître de Jacques. Joseph va essayer de me suivre. Jacques nous parle de la fraternité. Joseph, allez. Voilà, merci beaucoup pour anticiper. Je t'aime mon fils et je suis fier que tu sois au service. La fraternité dans l'épreuve, Jacques nous dit, l'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie? Un autre est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? L'un de vous est-il malade qu'il appelle les responsables de l'église qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur? La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Aïe, aïe, aïe. Ce verset m'a toujours travaillé. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. La fraternité, premier point, dans... Merci beaucoup. Voilà la fraternité. Soyez bénis. La fraternité dans les épreuves. Jacques veut nous encourager, en tant que chrétien, à comprendre que, puisque nous sommes une famille en Christ, notre communion n'est pas juste un partage émotionnel, affectif. La koinonia, la communion qui nous unit, est non seulement participation à la vie divine par Jésus-Christ notre Seigneur, mais elle est également participation à la pleine fraternité que Jésus a rendue possible entre nous. Surplombant les liens de sang, ce n'est pas une fraternité de sang, même si pour quelques-uns en église, c'est aussi la fraternité de sang qui se prolonge. Moïse, Aaron, Myriam, c'était une fraternité de sang. Mais en église, on découvre une autre fraternité, une autre sororité, celle de l'Esprit de Dieu, qui fait de nous des frères et sœurs en Christ. J'aime me rappeler que mon épouse n'est pas seulement mon épouse, mais elle est aussi ma bien-aimée dans le Seigneur. J'aime me rappeler que chacun de nous, frères et sœurs, nous sommes donnés les uns aux autres. Nous ne nous sommes pas choisis, mais nous nous sommes donnés les uns aux autres pour être véritablement des frères et sœurs en Christ. J'aime rappeler que Jésus lui-même a bousculé en disant « Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs ?» Ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui font sa volonté. J'aime rappeler comme une consolation qu'il a dit que celui qui aura quitté son père et sa mère pour me servir, il retrouve ses frères et ses sœurs. Il retrouvera au centuple des pères, des mères, des frères, des sœurs. J'aime rappeler que dans l'église, Jésus m'a donné beaucoup de pères, beaucoup de mères, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Et je sais que dans la culture dans laquelle il m'a fait venir le servir, c'est quelque chose qui est contre-intuitif et qui est difficile à dire. En 2003, nous étions à Colmar pour une semaine d'évangélisation et un de mes amis, originaire aussi du Cameroun, frère en Christ, nous avons été hébergés dans une famille française. Ils nous ont manifesté une hospitalité remarquable. Et au bout de quelques jours, cet ami Christian a eu la langue qui est un peu allée dans le registre de la maternité. Il a appelé Sœur Danielle qui nous recevait, Maman Danielle. Et ça a été, pour elle et pour nous, la découverte d'une réaction qu'on n'attendait pas. Elle a été déstabilisée. Et fermement, elle a dit, ce n'est pas possible de m'appeler Maman Danielle. On n'a qu'une seule maman. C'est que mes enfants qui m'appellent maman. Tu ne peux pas le faire pour ta mère. Mais tu ne peux pas non plus le faire pour moi et pour nos enfants. Et on s'est regardé. On a compris qu'on avait atterri dans une autre culture. Et qu'il fallait qu'on apprenne comment parler dans cette culture. Mais en même temps, on était triste. Hein, parce qu'on s'est dit qu'il n'accueillait pas aussi cet élargissement de la fraternité, de la maternité, de la paternité. Frères et sœurs, j'ai beaucoup de pères et de mères. J'ai beaucoup de frères et de sœurs ici parmi vous. La fraternité dans l'épreuve. Parce que la foi n'est pas simplement célébration de nos joies elle est aussi partage de nos souffrances et de nos difficultés. La fraternité dans l'impartialité. Jacques nous met en garde contre un vieux fond humain, celui de vouloir construire une fraternité uniquement sélective. Une fraternité de petits clubs d'amis. Et dans l'église, Jacques nous dit, Dieu ne fait point exception de personne. Il nous encourage à être artisans d'une fraternité qui inclut. D'une fraternité qui sait aller vers peut-être celui qui est le dernier arrivé, le récent. Une fraternité qui sait donner confiance sans opposer ancien et nouveau. Sans opposer les générations. Une fraternité inclusive en Jésus-Christ. Jacques nous parle aussi d'une fraternité qui se vit dans des actes de solidarité concrètes. Nous l'avons entendu de la bouche de notre frère Pierre, engagé dans ses œuvres aussi à Madagascar et ici, qui nous dit « La foi sans les œuvres est morte. » Parce que aimer ses frères et sœurs en Christ, s'aimer les uns les autres, c'est aussi aimer en action au nom de Jésus-Christ. La fraternité aussi comme responsabilité dans l'usage de la parole, une parole fraternelle. Et Jacques prend l'image du feu pour nous parler de la langue, de ce qu'elle est capable de faire. Et il exhorte cette communion fraternelle à être une communion de la bénédiction et non de la malédiction. Frères et sœurs, qu'il ne sorte pas de votre bouche des paroles qui bénissent et en même temps des paroles qui maudissent. Une même source peut-elle donner de l'eau froide et en même temps de l'eau chaude? Il dit, bénissez, ne maudissez pas. Une parole responsable, une parole maîtrisée. Joseph, suis-moi, s'il te plaît. Je suis devant, mon fils. C'est devant. Continue, avance, avance, avance. Voilà, une parole responsable, une langue pour bénir. Merci. Cette parole est une parole encourageante, et mon fils a besoin d'être encouragé, je crois qu'on peut l'applaudir. Hein. Se retrouver devant 200 personnes en train de passer les slides sans avoir la trame de son papa, ça impose un suivi. Mais ce n'est pas moi qui l'ai invité, hein. Il est inscrit dans ce service, ils ont fait leur planning, ça tombe là aujourd'hui. Je précise parce qu'on pourrait se dire, mais quelle idée de mettre son fils dans une telle situation, dans un tel embarras. Il fait partie de l'équipe de service et il apprend à servir là aussi dans ce ministère. Une parole responsable, une parole maîtrisée, une parole dont la vocation est d'encourager, de bénir, de consoler, d'apaiser. Alors que nous sommes dans une société qui est remplie de paroles de toutes sortes et que les paroles dont on fait le plus l'écho sont des paroles de scandale, des paroles de buzz. Ceux qui annoncent des bonnes nouvelles n'ont pas beaucoup de likes sur Internet. Ceux qui annoncent des belles choses n'ont pas beaucoup de vues. Et si vous voulez qu'on ait des vues demain, je sais comment faire. Une bonne vidéo scandalisante. Et vous verrez que tout d'un coup, on aura des millions de vues. Il suffit de dire un pasteur dénudé à Nîmes et vous verrez le tabac que ça fera. Le pasteur du Saint Martin Luther qui se met à nu. Rien que ça comme titre, vous verrez le nombre de likes. C'est pas près d'arriver. Hein? Frères et sœurs, la parole de Jacques nous invite à oser être une église qui cultive une communion qui nous engage, une communion qui n'accepte pas, je le disais hier, de rester en superficie, en surface. Et la finalité, peut-être l'avez-vous remarqué, c'est que Jacques nous dit, la finalité c'est que nous soyons une église de la guérison. Je m'expliquerai. Il peut y avoir ambiguïté, je le préciserai. Une église de la guérison par la prière et par le pardon. On va suivre la trame. Il nous donne, c'est là le point suivant, un certain nombre de repères pour aller vers une communion porteuse de guérison. D'abord, il nous invite à oser la vulnérabilité. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et voilà peut-être quelque chose qui a fait dire à Martin Luther, qui avait bien connu la direction des consciences et la confession privée, moine Augustin qui a fondé finalement le protestantisme malgré lui, voilà peut-être ce qui l'a amené à considérer un peu Jacques comme étant une épître de paille, quelque chose de pas très consistant. Mais nous savons que Jacques veut réchauffer la fraternité, non pas à partir d'un feu de paille, mais à partir même de l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Jacques a quelque chose à nous dire dans notre société où nous mettons beaucoup d'énergie à cacher nos vulnérabilités. Dans notre société où nous voulons être reconnus comme cinquième puissance du monde et autres, et où les avenues principales sont toujours jolies, même dans nos villes. Mais il suffit de prendre un peu quelques chemins de traverse pour se rendre compte de la misère du monde, de la pauvreté, de la difficulté, de l'insalubrité même. Nous grandissons dans des sociétés qui veulent afficher les réussites technologiques, les prouesses, une façade de réussite, mais qui sont aussi des sociétés de pauvreté. Et j'ai pu dire en ce sens qu'être pasteur en France, c'est être pasteur d'une église en France, c'est aussi être pasteur d'une église pauvre. Et nous sommes une église pauvre. Et voilà pourquoi nous avons besoin que le Christ soit notre richesse pleinement. Oser sa vulnérabilité ici par la confession, ce n'est pas pour nous protestants un sacrement de confession ou un sacrement de réconciliation. Je noterai qu'il ne s'agit même pas de la confession privée, comme on le fait dans d'autres milieux, et je ne porte aucun jugement là-dessus. Mais je voudrais relever la dimension collective de l'exhortation. C'est une invitation à accueillir nos vulnérabilités les uns les autres. Nous sommes très bons pour chanter « Alléluia !» Et nous faisons bien. Et Jacques nous dit, quand vous chantez « Alléluia », pensez également à « Alléluis ». Alors, je le dis, en étymologie et en grec, ce n'est pas du tout la même chose. D'abord, « Alléluia », on est plutôt en hébreu. « Alléluis », on est plutôt dans le grec. C'est les uns les autres. Il y a peut-être un jeu de mots d'assonance, mais il n'y a rien de commun. Simplement pour nous rappeler que l'église n'est pas simplement le lieu de la louange, le lieu de l'expression de tout ce que nous avons sur le cœur en bien, en beau pour Dieu. Il est aussi le lieu où nous apprenons la vulnérabilité les uns vis-à-vis des autres. Quand est-ce que tu es allé voir un frère, une sœur, ou toi sœur, quand est-ce que tu es allé voir une sœur? Quand est-ce que tu es allé voir un responsable? On lui dit, mon frère, ou bien ma sœur, j'ai besoin d'aide. Je lutte avec cette difficulté dans ma vie, cette addiction. Je lutte avec ce fardeau. Je lutte avec ce problème de la vérité, du mensonge, ce problème d'une double vie. J'ai besoin d'être aidé. Je veux briser l'isolement du péché. Voilà ce que Jacques voulait. Que nous soyons une communauté de la vulnérabilité où nous permettons non pas des apparences de façade, mais où nous nous autorisons de pouvoir nous accueillir avec nos chutes. Parce que cette vulnérabilité, elle n'a pas simplement un sens unique. C'est une vulnérabilité qui nous invite à vivre les uns avec les autres. Aujourd'hui, c'est moi qui dis, j'ai besoin de votre prière pour que Dieu me donne patience, douceur. Et demain, c'est un autre qui dit, pasteur, j'ai besoin de votre prière pour que Dieu me donne persévérance dans l'épreuve. C'est la vulnérabilité et la redevabilité les uns les autres. Et en cela, il nous dit que la confession est donc un acte de libération et un acte de communion, parce que celui qui aurait pu rester enfermé dans sa culpabilité, isolé dans son péché et dans sa faute et dans sa chute, et alors lorsque la communauté intègre dans sa mission qu'elle est le lieu de la restauration, alors l'isolement du péché est brisé. Parce qu'on peut venir en communauté. On n'est pas dans le puritanisme puéril du 19e siècle. L'idée n'est pas de dire remontrer d'abord la patte blanche ou le col blanc. On est dans une communauté sous la croix. La croix qui est l'emblème même de l'humiliation que le Christ a subie, lui qui était sans péché. Mais avouons-le, cette redevabilité et cette vulnérabilité n'est pas possible si nous ne sentons pas qu'il y a l'amour du Christ. Elle n'est pas possible si nous ne sentons pas qu'il y a la bienveillance. Elle n'est pas possible si nous ne sentons pas qu'il y a la sécurité. Et voilà pourquoi nous tous, nous éprouvons la difficulté à vivre la vulnérabilité. Et voilà pourquoi nous voulons tous montrer notre couple sous un beau jour. Voilà pourquoi nous voulons tous montrer notre famille sous un beau jour. Voilà pourquoi nous voulons tous montrer l'église de Jésus sous un beau jour. Il nous est difficile de vivre la vulnérabilité. Peut-être parce que nous avons encore besoin d'un accroissement de l'amour authentique de Jésus dans nos cœurs. Et peut-être parce que nous avons encore besoin d'un accroissement de l'amour qui ne juge pas, de l'amour qui ne condamne pas, mais de l'amour qui relève, de l'amour qui ne fait pas des gossips, qui ne rapporte pas les médisances. Il est impossible d'être vulnérable dans un groupe de maison, d'être vulnérable à deux ou à trois, si ce que je vais confier sort et devient un partage de tout le monde. Il est impossible pour notre propre support narcissique de pouvoir se tenir debout en vérité devant mes frères et sœurs si ces prérequis ne sont pas cultivés. Je crois que pour s'orienter vers une communion porteuse de guérison, alors nous avons à réfléchir sur cette culture de la vulnérabilité et de la redevabilité. Mais il y a un risque, parce que ça ne suffit pas. Il ne s'agit pas simplement de se parler vrai, de se confier les uns aux autres. Il s'agit encore de ne pas rester spectateur de notre vulnérabilité. De ne pas rester commentateur de notre vulnérabilité et surtout, si on veut parler vrai, souvent des vulnérabilités de l'autre. Il s'agit de transformer nos souffrances, nos échecs, nos chutes en sujet d'intercession. De devenir donc non pas des spectateurs de nos vulnérabilités, mais des intercesseurs. Et voilà pourquoi Jacques nous dit qu'une communauté qui veut vivre une communion qui guérit les cœurs, une guérison qui guérit les âmes, doit être une communauté d'intercesseurs. Et c'est dans la communauté, à deux ou à trois, dans un groupe de maison, dans l'église, que nous pouvons venir chercher une parole de grâce, une parole qui nous relève. Et voilà pourquoi Jacques nous dit que celui qui passe par une souffrance, qu'il invite l'église à prier, pour que nous soyons une communauté où nous pouvons nous réjouir les uns les autres, c'est vrai. Mais que celui qui est malade aussi, qu'il puisse appeler. Alors la maladie englobe tout, toute l'unité de la personne, corps, âme, esprit. Et aussi la promesse de la guérison touche toute l'unité de la personne. Et ici, puisque nous sommes dans le domaine de liens et des relations, il est fondé de d'abord penser que ce que Jacques a à l'esprit, c'est cette guérison des liens brisés, heurtés. C'est cette guérison des cœurs brisés. C'est cette guérison des histoires. Et nous en avons aussi dans nos familles, dans notre église, dans nos couples, des histoires, des mémoires traumatisées, heurtées. Voilà ce que Dieu veut guérir, sans exclure cette guérison aussi physique qui lui plaît dans sa souveraine volonté de dispenser comme bon lui semble. Être cette église qui vit une communion porteuse de guérison, c'est aussi encourager concrètement la prière, donc les uns pour les autres. Et enfin, c'est être cette communauté qui cultive le pardon. Qui cultive le pardon. Le pardon n'est pas une injonction, j'aime à le rappeler. Le pardon est un don. Un don qui coûte. Qui coûte des larmes. Parfois des nuits d'insomnie. De ravaler parfois sa fierté, se rabaisser parfois, mais qui n'est jamais un don au rabais, parce qu'il est impossible sans que la justice ne passe. Il est impossible tant que la vérité ne passe. Mais il est possible, parce que la justice et le pardon peuvent s'embrasser, parce que la vérité et le pardon peuvent se rencontrer et doivent se rencontrer en Jésus-Christ. Il n'est donc pas une injonction ni une morale, mais il est une force que le Seigneur nous donne par son esprit et par les moyens de sa parole de pouvoir nous en revêtir pour être cette communauté de la restauration. Frères et sœurs, si nous vivons vraiment ce que dit Jacques, alors notre communion sera alors une communion féconde. Une communion qui nous engage. Et c'est le sens de la charte que j'ai rédigée et que j'ai soumise au conseil et que je vous ai présentée. Je voudrais, alors que je veux conclure ce message, nous inviter à la déclarer ensemble, si vous le voulez bien, dans le respect de chaque liberté de conscience. Mais retenons que nous sommes d'accord pour dire que l'Écriture nous invite à aller vers une communion qui nous engage en vérité. Et ça veut dire moins de jugement, plus de soutien. Ça veut dire moins de masques, plus d'authenticité. Ça veut dire moins d'individualisme, plus de fraternité. Alors, osons avouer nos blessures. Osons porter les fardeaux les uns des autres. Et osons inviter Dieu à agir dans la prière fraternelle. Et alors, cette promesse d'une communauté comme lieu de communion, de pardon et de guérison se réalisera à nouveau et pleinement au milieu de nous.